Ouais, c'est vrai que je me suis entendu là, puis c'est moi qui ai composé ça sur le site. C'est pas trop mal. Et vous, comment vous vous définissez? Je suis allé voir hein, aussi sur le site La Fraternelle. Je suis allé voir, j'ai pas trouvé de vision sur le site directement, mais après j'ai compris que vous aviez la vision des Églises Free, donc j'ai lu la vision des Églises Free. J'ai pris note pour savoir où vous alliez, quel était le mandat que Dieu vous donnait. Et puis j'ai entendu que aimer les gens, c'était vraiment très important pour vous, aimer les autres. Et voilà, alors comme on vient d'être pas hospitalisé, mais vous nous avez offert l'hospitalité pour JC 2033, et qu'on vient de vivre 2 jours d'une densité incroyable dans ces endroits. Donc j'aimerais, je ne suis pas dans le comité, mais j'aimerais quand même dire, ayant participé à ces 2 journées très très bénies, j'aimerais vous remercier au nom du comité. Enfin, il ne me l'a pas demandé, mais c'est tous mes amis, donc je pense que je peux le faire, de nous avoir accueillis, d'avoir prêté ces locaux ou loué, je ne sais pas trop, mais c'était 2 journées fantastiques. Voilà, la prochaine fois, si vous n'étiez pas là, venez, vous serez vraiment bénis. Voyez, c'est un projet qui touche toutes les nations, les 200 nations du monde. Alors, c'est dans très longtemps, mais il faut toujours dans l'Église que des gens aient des visions au-delà du aujourd'hui et maintenant. Parce que le mouvement de Dieu va toujours plus loin que l'au-delà et maintenant, et il donne des hommes et des femmes pour aider à voir ce qui n'est pas encore là, pour qu'on aille dans cette direction par la foi. Et cette Église a aussi besoin de ça, pour ça que je parlais de vision. Et en particulier, votre pasteur, David Rosset, enfin un de vos pasteurs, vous en avez trois, si j'ai bien vu sur le site, dont une stagiaire que je connais il y a longtemps. Il ne faut pas que je me perde. Oui, il nous a dit, le premier soir de cette conférence, qu'il y avait plus de combien de nations à Nyon, vous le savez? Ouais, il y en a ceux qui étaient là, il ne fallait pas dire. Je voulais voir si les Nyonnais savaient, ou les gens de la région. Plus que 120. Et je pensais dans mon cœur, là ce n'est pas encore la prédication, mais ça vient, je pensais dans mon cœur, le rêve de Dieu est toujours que toute église soit une maison de prière pour toutes les nations. Ça signifie que c'est clairement un mandat, qu'il n'y a pas besoin de se demander 1 000 questions, qui est posé sur l'église avec un grand E de Nyon, et donc aussi sur cette communauté. C'est clair que si Dieu envoie les nations à Genève et qu'elles logent, ou sont hospitalisées plutôt, on trouve l'hospitalité de Nyon, la commune de Nyon, c'est pas pour rien. Il n'y a pas des fois besoin d'aller. Elles sont là. Du coup, je pense que si vous aviez un secteur visionnaire, comment on peut rejoindre et prier pour toutes les nations en tant qu'Église fraternelle ici à Nyon? Je pense que Dieu pourrait vous donner quelques impulsions, si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Comme si de l'extérieur, je me permets de dire des choses très fraternellement, des suggestions. C'est vrai que j'ai un cœur, j'aime les visions nouvelles qui mettent du mouvement et qui donnent du sens à la vie, qui fait que la vie, ce n'est pas seulement être assis et jouir des bontés de Dieu dans des cultes, mais c'est en jouir et les communiquer là où il nous appelle. Donc, moi, je vois ces 122 nations, je dis, fantastique! Quelle opportunité pour être lumière et sel dans ces nations. Et elles sont ici. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer plus que quelques kilomètres. C'est fantastique. Voilà, j'arrête là parce que le message qu'on m'a demandé, c'est de faire une continuité sur la résurrection pour honorer ceux du séminaire qui sont avec nous, puis il y en a quelques-uns. I hope there is no English speaking people, parce qu'il n'y a pas de translation, je crois. Not yet. Yeah, that could come, no? For all the English speaking people, right? Ok, never mind. Donc, je vais parler de la résurrection, mais comme j'ai aussi compris et lu sur le site, mais compris par David, que vous étiez dans le thème de l'amour, et qu'il y a Martin Luther King qui est derrière, il m'a demandé, fais un lien. Alors, ok, je vais faire un lien, résurrection et amour, ou plutôt transformé par sa résurrection pour aimer comme il a aimé. Ça vous va? Transformé par sa résurrection pour aimer comme il a aimé. Voilà. Alors, le verset de départ, c'est la jante dans la prédication. Avant, c'est une parole, une pensée d'encouragement pour vous. Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bon, ça paraît pas très ressuscité quand c'est dit comme ça, parce que si on le prend au niveau, je dirais, du naturel, on le prend pas au bon niveau. On le prend au niveau du sentiment, on le prend au niveau de ce qu'on peut faire. Moi, j'aimerais vous placer au niveau de ce qu'on peut pas faire. J'aimerais nous placer ensemble avec lui, au niveau où c'est lui, que lui qui peut, et moi je ne peux pas. Alors là, ça devient intéressant. Parce que tant qu'on est au niveau de ce que je peux avec mes forces naturelles, ce n'est pas intéressant. Et ça donne pas beaucoup de fruits dans le royaume. Alors j'aimerais nous placer dans ce niveau où nous réalisons « je ne peux pas ». Et lui rend possible. Alors, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, je vous ai aimé, pont. Là, c'est le niveau. OK ? Qui d'entre vous peut dire « j'aime l'autre comme Christ aime les gens » ? Là, t'es le niveau, paf, je peux pas. Qui d'entre vous a de l'amour tel qu'il est prêt à donner sa vie pour ses ennemis ? Donc, du coup, paf, comme je vous ai aimé, ça nous met dans le surnaturel, tout de suite. C'est-à-dire dans ce qui est au-delà de ma nature, de mes possibilités, de ce que je peux. Waouh ! Mais ça devient intéressant. Non ? Et un peu inconfortable. Je suis d'accord. Mon but n'étant pas de vous mettre dans l'inconfort, mais de vous mettre, et de nous mettre avec lui, dans ce que lui offre, qui est tellement plus grand que de soi ce que nous, on peut, ou dans notre vision de ce que je peux. Ça, c'est tellement limité, non ? C'est pas intéressant. Alors, il faut toujours l'entrée en matière, là, sur ce texte, Jean 13, 34, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Je vous ai aimé, c'est le niveau, le comme. Le comme chez Jean, dans l'évangile de Jean et dans les autres évangiles, il est souvent mal compris et des fois, à mon avis, mal traduit. Alors là, c'est le théologien exégète qui parle. C'est bien d'amener de temps en temps de l'info qui a du sens. Le comme signifie « aimez-vous les uns les autres de l'amour même dont je vous ai aimé ». Le comme n'est pas « je suis là, j'aime comme cela ». Maintenant, toi, avec tes forces naturelles, essaye de reproduire, tu copies, mais moi, j'ai les forces divines surnaturelles du Saint-Esprit, mais toi, tu dois te débrouiller en copiant avec tes forces charnelles, naturelles, ton histoire de famille. Eh non ! Aimez-vous les uns les autres de l'amour même, avec la puissance d'amour même, dont il vous a aimé, dont il vous aime. C'est-à-dire que c'est... Le comme indique que l'amour dont on va aimer les autres, c'est celui qui nous habite, c'est le sien. C'est-à-dire qu'on n'est pas nu, on n'est pas vide. Ah, là, ça devient intéressant. Et tout à coup, aimer les gens, aimer les autres, ce n'est pas une indication morale vide, c'est une vie avec lui. C'est-à-dire que son amour en moi et avec moi, on va y aller. Jésus et moi, on va aimer les gens. De l'amour dont il m'aime, c'est cet amour-là même qui habite mon cœur. Ah oui, mais alors après, ça pose évidemment quelques questions. Habite mon cœur. Du coup, cet amour-là, qui va travailler là, avec nous, pour aimer les autres, comment il vient ? Il vient pas par juste le mental. Il vient par une présence. Et la présence vient par le Saint-Esprit. Romains 5, 5, Paul aux Romains. Fondement théologique. J'enseigne Romain à la Haute École de Théologie, dire je l'aime. Hein. Je suis fou de cette lettre. Et Paul dit, Romains 5, 5, l'amour de Dieu, sous-entendu d'abord pour moi, est déversé dans mon cœur par l'Esprit de Dieu qui nous est donné. J'expérimente, je suis aimé, l'amour dont il m'a aimé, par la présence du Saint-Esprit dans mon cœur, qui coule, il est déversé, c'est liquide comme verbe. Et c'est vrai que l'amour doit être un peu liquide. Parce qu'un amour rigide, ça ne donne pas aux assoiffés d'amour quelque chose à boire. Ça reste une fontaine vide. Dieu veut des fontaines pleines. Ça va ? Il y en a qui baillent. Ah, je lui ai parlé, il est à la haute école de théologie. Il m'a trop entendu. Ouais, c'est le problème des enseignants, ils voient les gens qui baillent, ils disent non de chien. Je ne suis pas intéressant là. Je suis passionné tout seul par mon sujet. Ouais, j'aime bien l'humour parce que l'humour et l'amour, c'est qu'une lettre de différence. Ça va bien ensemble. Donc l'amour dont je suis aimé, on l'expérimente. Paul parle dans Romains 5:5, non pas d'un amour abstrait mental. Il ne parle pas d'une conviction Dieu-même. Il parle d'une expérience, je suis aimé. Et ça coule dans mon cœur. Tous les exégètes sont d'accord là-dessus. Expérience, là. Ensuite, Galates 5:22, il est dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Du coup, on doit quand même comprendre que cet amour d'en haut, c'est l'Esprit Saint qui va couler en nous, d'abord pour le recevoir et ensuite pour le donner comme un fruit. Du coup, c'est tellement important d'honorer la personne du Saint-Esprit et d'expérimenter sa présence et de savoir qu'il habite en nous et d'activer, ou je ne sais pas comment dire, de s'activer avec lui dans son mouvement d'amour pour les gens. Parce que le Saint-Esprit aime les gens plus que nous. Parce que le Saint-Esprit porte l'amour de Jésus dans notre cœur pour les gens. Donc après, la vie chrétienne pour moi est devenue très simple dans son orientation. De l'amour dont je suis aimé, aimer les autres, et tout ça dans le Saint-Esprit. Évidemment, je dois rajouter, mais je ne peux pas tout dire en un message, que ça implique aussi apprendre à aimer Dieu, que ça implique à apprendre à aimer soi-même de manière ajustée ou vraie ou bonne, et que ça implique même apprendre à aimer la terre que Dieu nous confie. Ah oui, vraiment, parce que c'est la sienne. Ok, mais je vais rester sur le verset 13-34 de Jean et continuer. Donc, ressuscité, donc mis sur le plan de la manière dont Jésus aime dans l'esprit, nous aussi, nous allons apprendre à aimer dans l'esprit pour que nous portions un fruit d'amour dans nos vies. Théologie très simple. Mais apprendre, l'objectif de la vie chrétienne, apprendre à aimer les gens comme il nous a aimés, de l'amour même dont il nous a aimés. Vous êtes avec moi ? Ouais, je vais trop lentement, je suis trop pédagogique, donc ça va lentement. Ben, oh, c'est bon. La première chose que j'aimerais dire, il y a 6 points, mais je ne vais pas être aussi long que le premier, vous inquiétez pas, c'est il y a un passage à l'humilité qui me paraît obligé. Je dis toujours, ou souvent, l'humilité, c'est le lit dans lequel coule la rivière de l'amour. Écoute par en bas. L'orgueil, c'est les montagnes, c'est ce qui s'élève. Et l'eau, elle coule en bas, elle ne reste pas en haut. Colossiens 3:12 dit ceci, « Revêtez-vous d'humilité. » Et commence en disant, « Comme des bien-aimés du Père, revêtez-vous d'humilité. » Dans le positionnement d'une vie nouvelle en Jésus, aimé par le Père, revêt-toi d'humilité. Alors, pour donner un exemple très court, je me souviens d'une réunion de pasteurs, et les pasteurs debout louaient Dieu. C'est pas mal quand les pasteurs sont debout et louent Dieu. C'est leur premier ministère, c'est bien. Et puis moi, j'étais avec eux, et j'avais l'impression que tout le monde baignait dans la rivière de l'amour de Dieu. Il y a des pasteurs réformés, évangéliques, voilà. Et moi, j'étais complètement en dehors. Je me sentais comme un caillou, ça coule à la surface, il n'y a rien qui rentre. Et puis, dans mon habitude, j'ai l'habitude de demander à Dieu, mais pourquoi ? Donc je pose des questions. Je dis, mais pourquoi ? J'étais mal, je me sentais isolé de tout le monde. Ils ont de la chance, eux. Ils font l'expérience de l'amour de Dieu qui coule, moi pas. Et j'ai demandé à Dieu, et puis il m'a dit immédiatement, la parole est venue, c'est ton orgueil qui t'empêche de recevoir mon amour simplement comme un enfant bien-aimé. Et c'est comme un couvercle. Il est là, mais ça tisse. Du coup, j'ai dit, oh, je te demande pardon, Père. Je m'humilie. Je m'humilie de penser que je sais, que j'ai, que je suis mieux que les autres, que je comprends tout. Je ne sais pas, je n'ai pas, je ne comprends pas. S'il te plaît, s'il te plaît, viens me rejoindre. Ah, voilà. Tu auras une récompense de... Merci beaucoup. L'humilité, c'est un passage... Oh, vous êtes fantastique. Là. Je reviendrai. C'est quoi qu'il y a à midi ? J'ai oublié de donner mes désirs. Bon, j'avance, Seigneur, aide-moi. Il y a un passage obligé, qui est le passage de « Je n'ai pas, je ne sais pas et je ne peux pas ». Le pire ennemi de ce niveau-là, c'est l'orgueil qui dit « je sais, je peux, j'ai compris ». Et ça, ça empêche l'Esprit-Saint de venir te donner, d'expérimenter son amour et de le donner à ce niveau-là. Alors, ça implique des petites morts. Dans Colossiens 1, 3, 1, il dit « vous êtes ressuscité ». Avec Christ, oh, dont je suis élevé, paf, avec lui, il y a une vie nouvelle en moi. Et puis après, il est dit, faites mourir, Colossiens 3, 5. Alors, beaucoup de chrétiens comprennent ça très mal, ils pensent qu'il faut faire mourir notre personnalité, notre moi. Non, ce qui doit mourir, c'est l'indépendance. C'est le moi indépendant. Alors, je vous donne un exemple concret. Quand je suis arrivé dans l'église à Orbe comme pasteur réformé, fraîchement moulu, sorti des études, 35 ans, force de l'âge, et je veux changer l'église. Il se réveillait, vivante, pas religieuse. Et puis Dieu m'a dit, Paul, tu veux changer l'église, mais moi, je veux d'abord changer ton cœur. OK. Alors, d'accord, change mon cœur. Après, je lui ai dit, comment tu veux faire, Seigneur ? Et puis, il m'a dit, Paul, est-ce que tu aimes tes paroissiens ? Alors, peut-être vous imaginez pas, mais les paroissiens inscrits, ils étaient 1400. La plupart d'entre eux, tu les vois trois fois par vie. Ou quatre, peut-être. Ça dépend de leur trajectoire, c'est-à-dire le baptême, la confirmation, le mariage, éventuellement, et puis la mort. Enfin, là, tu ne les vois plus. Enfin... Est-ce que tu aimes tes paroissiens ? Non. Il m'énerve. Du coup, j'ai été honnête avec mon cœur, j'ai dit, j'ai pas d'amour. Je peux pas les aimer. Je n'aime pas ça. Évidemment, après, on peut ne pas aimer un comportement, mais il faut distinguer le comportement de la personne. Donc, j'ai compris que Dieu voulait changer mon cœur et commencer à m'apprendre à aimer les paroissiens. Tous. Qui impliquait boire un verre avec l'un, écouter un autre, enfin, beaucoup de choses. Je ne peux pas tout raconter. J'ai dit une fois une chose comme ça, il y avait des femmes qui se sont converties. Puis j'avais un problème, c'est que des femmes qui se convertissaient. Et alors, les maris étaient jaloux parce qu'elles se rendaient compte que leur femme avait un autre mari, pas moi, mais le Seigneur. Mais ils m'en voulaient à moi parce que le Seigneur, ils n'y croyaient pas, donc ils disaient, c'est Paul le responsable. Donc j'avais un vrai problème. J'ai dit, Seigneur, je fais comment ? Et puis, Jésus m'a dit, deviens l'ami de ces mecs, donc des maris de ces femmes. Je dis, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais tout ce qui les intéresse ne m'intéresse pas. Et donc, j'ai appris à m'intéresser ou à trouver des chemins d'intérêt commun. Et là, il aimait bien manger. Donc, on a fait des, chez Guignard à Orbe, on a fait des petits déjeuners. Et donc, voilà, ben ça, c'est très masculin. Ben, etc., etc., je ne vais pas tout vous raconter. Deviens l'ami de ces mécréants. ces gens qui croient et qui s'intéressent qu'à des trucs qui ne m'intéressent pas du tout. Est-ce que tu aimes tes patients? Non, vraiment pas. Mais j'ai appris à aimer. Et pour apprendre à l'aimer, ce qui est fantastique, c'est qu'on doit dépendre de lui. Et c'est là qu'on sort de l'indépendance. Et c'est là qu'on meurt. Mais pas à sa personnalité. Sans moi, dit Jésus dans Jean 15, vous ne pouvez rien faire. La chair, c'est l'homme naturel qui ne veut pas dépendre, qui ne veut pas faire confiance, qui ne veut pas dire, mais moi, je n'ai pas, je ne peux pas, mais qui ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a des gens, ils ne s'arrêtent pas. Je ne peux pas, je n'ai pas, donc je ne fais pas. Donc quand Jésus me dit d'aller, d'aimer, de donner, je ne fais pas. De prêter ma voiture, je ne fais pas. D'ouvrir ma maison, je ne fais pas. De donner mon argent, je ne fais pas. Parce que je ne peux pas et je n'ai pas. Non, des gens, ils disent, puisque je n'ai pas, c'est bon. Mais ce n'est pas comme ça qu'on grandit. On grandit en disant, je ne peux pas, mais puisque tu me dis d'aller, j'y vais. Mais alors, s'il te plaît, revais-moi de ton amour. Revais-moi de ce qui est en toi. Moi, je n'ai pas. Et là, on grandit. C'est un tout petit secret. Mais si je le dis comme ça, c'est parce que j'ai vu tant de chrétiens. Soit ils disent je sais, et ils sont dans l'orgueil et ça bloque. Soit ils disent je ne sais pas, et ils sont dans la passivité, puis ils attendent que ça leur tombe dessus. C'est l'obéissance. Tu agis sur ce qu'ils te demandent. Il y a des gens, je vous donne un petit exemple. J'ai rencontré des tonnes de gens qui disent, moi, je n'ai pas eu de papa. Je n'ai pas eu l'amour de mon papa. Comment je peux aimer mes enfants? Et alors, s'ils doivent faire tout le chemin de guérison par rapport au manque d'amour du père, peut-être ça leur prendra 20 ans. Mais ils ne peuvent pas attendre 20 ans de faire le chemin de guérison, leurs enfants, ils sont déjà là. Donc moi, j'ai vu tonnes de fois des pères qui ont dit, « Ok, je n'ai pas reçu. Moi non plus, je n'ai pas reçu. Mon papa ne m'a pas parlé, mon papa ne m'a pas pris dans les bras. » Mais j'ai vu ces pères, ils ont dit, « Ok, je n'ai pas eu, je n'ai pas reçu, mais je vais donner et je vais demander à Dieu de me donner l'expérience au moment même où je donne plus loin. » Et en se mettant en route, la guérison verticale est enclenchée et le don horizontal commence à couler, les deux en même temps. Beaucoup de chrétiens disent, je dois d'abord tout régler. Non, c'est complètement faux. Obéis dans ce que la parole te dit aujourd'hui. Et alors le réglage avec le ciel, tu le fais dans la marche d'obéissance. J'ai un peu d'âge dans l'expérience avec Dieu, donc je me permets de parler peut-être avec un peu plus d'autorité. Alors on a besoin de faire l'expérience de Dieu qui nous aime, et c'est vraiment important ces expériences, parce que sinon, en cours de route. Donc il faut vraiment que chacun de nous sache que dans l'apprentissage de l'amour pour les autres, au niveau là-haut et pas au niveau de ce que tu peux, et de ce que tu sais, et de ce que tu as, il y a vraiment une provision pour toi. Il y a un apprentissage d'une confiance. Parce que c'est difficile de se dire, est-ce que je vais recevoir pour l'autre alors que je n'ai pas? Donc des fois, Dieu nous met dans des expériences où on reçoit pour soi. Juste pour soi, parce qu'il nous aime. Parce qu'on a un papa qui nous aime, il nous donne gratuitement, pour rien. C'est-à-dire, c'est complètement pour rien. Mais comment tu veux aimer les autres pour rien si tu ne reçois pas l'amour pour rien pour toi? Ça s'appelle la grâce, pour rien, gratuit, parce que je t'aime. Je te fais des cadeaux parce que je t'aime. Tu n'as rien fait pour, je t'aime. Et là, il y a une petite mort à l'indépendance. Parce que accueillir les cadeaux, c'est pour des Suisses, je sais, c'était pour nous les Suisses, c'est quelque chose. On est tellement riche. Il faut que j'avance. Je laisse un autre témoignage, mais peut-être vous me réinviterez une fois, qui sait. Une chose que je voulais vous dire, c'est le point suivant. Donc là, c'était l'humilité. Ensuite, c'était le point pas jamais tout seul, c'est avec lui. C'est la guérison de l'orgueil, c'est la dépendance de lui. C'est l'apprentissage de la confiance. Et c'est OK. C'est vraiment tellement OK. Aimer au niveau du Christ, c'est aimer avec ses pensées, ça commence dans le monde intérieur. Il y a un rude combat avec les pensées. Dans Matthieu 7, verset 1, Jésus le dit comme ça, « Ne jugez pas pour ne pas être jugé. » Moi, j'ai grandi dans un monde où on m'a évalué sans arrêt. On m'a comparé. J'étais formaté, moulé. Pas assez bien, pourrait faire mieux. Donc j'étais sous des étiquettes de jugement, de comparaison, d'évaluation constante, tout le temps, toute mon enfance. À l'école, dans la religion, dans la famille, tout le temps, partout. Donc j'ai grandi avec une capacité à mettre des étiquettes sur moi, genre c'est pas juste, c'est pas bien, pour être meilleur, etc. Et quand je suis arrivé dans le royaume de Dieu parce que Jésus m'a rencontré et saisi, j'ai réalisé assez vite, je mets des étiquettes sur les gens. Je rencontre David, paf, il y a une étiquette qui saute dans mes pensées. Hop, j'ai un post-it à l'intérieur. Et dans les cas où je rencontrais les gens plus souvent et créais des relations, j'avais non seulement quelques post-it, mais j'avais un petit casier judiciaire qui se montait. Il n'était pas à Berne, il était dans mes pensées. Et il n'était pas vierge. Chacun avait quelque chose. Et moi, j'en avais pour moi-même, mon casier judiciaire de moi contre moi, il était plein. Mais ça, c'est... Vous savez quel fruit c'est, ça? C'est le fruit de l'arbre de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. L'arbre, la connaissance du bien et du mal. Je sais ce qui est bien, ce qui est mal pour moi, pour les autres. Je peux dire, parce que je sais. J'ai le savoir. Donc je m'évalue et j'évalue les autres. Ça, c'est l'enfer, mes amis. Donc Dieu m'a montré dans sa parole, il dit, Paul, ne juge plus. Ni les autres, ni toi, parce que ça te revient compte de toute manière. Donc j'ai dit, mais je fais comment? Moi, je fais ça tout le temps, à longueur de journée. Les étiquettes dans les pensées, ça sort tout seul. On ne peut pas aimer à ce niveau-là si on ne mène pas le combat dans les pensées. Si on n'arrête pas de faire des choses qui viennent de l'arbre du savoir, c'est bien, c'est mal, pour lui, pour moi, pour les autres. Tu ne peux pas aimer, tu es coincé. Vous êtes d'accord, non? On en souffre tous dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'on a grandi dans ces climats. Or Jésus, quand on entre dans le royaume, il dit comme Paul, ça claironne dans Romains 8.1. Vraiment, c'est du handle, c'est du fireworks. Ben, je fais ça avec mes étudiants, je fais passer des fois du handle. Il n'y a, Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, paf, arbre de la connaissance, c'est bien, c'est mal, paf, il n'y a plus de condamnation. Tu n'es plus dans un positionnement de juge, ni sur toi, ni sur les autres. Il n'y a plus de condamnation. Je me positionne comment? Eh bien, tu commences à apprendre à bénir. Dire du bien, non pas sur les comportements, mais sur la personne, avec le regard de Dieu. Du coup, j'ai passé toute une période de ma vie où j'ai posé à la croix les pensées de jugement quand elles venaient, l'étiquetage intérieur, les casiers judiciaires, sur moi et sur les autres. J'ai dit non, il n'y a plus de condamnation pour moi, non pas non plus pour les autres. Donc, je vais voir les hommes et les femmes comme tu les vois. Donc, je ne les vois pas dans un casier judiciaire, dans une grille de pas bien, aurait pu faire mieux. Tout ça, c'est du bazar. Ça nous encombre. C'est de l'arbre de la connaissance, du savoir du bien et du mal. C'est fort, je sais ce que je dis. Mais je le dis aussi parce que je sais la force de mort qu'il y a dans cet arbre. Si on en mange, on meurt. Et on meurt une deuxième fois. Donc il y a une œuvre de libération de Jésus, là, comme je t'ai aimé. Je t'aime et je te libère de ça. Donc j'ai appris à bénir. Donc quand ça venait, je dis « Ok, je te demande pardon. » Et puis « Seigneur, je bénis la personne dans tout ce qui est bien en elle. » Et puis j'ai cherché des paroles de bien parce qu'il y a les pensées, puis après la bouche. Donc j'ai appris à utiliser ma bouche pour que ma bouche soit un instrument d'amour. Alors je dois aller un peu vite parce qu'il y a vraiment encore deux points que j'aimerais vraiment dire. Vous pourrez lire dans Éphésiens 4, 29 qu'aucune parole pourrie ne sorte de ta bouche. Mais si tu as quelque chose à dire, que ce soit une parole de bien pour construire les autres selon leurs besoins et apporter une grâce à ceux qui l'entendent. Aucune parole pourrie, la chair, elle fait du pourri. Je suis toujours dans les traductions très littérales du grec. Le fruit de l'esprit, il n'est pas pourri. Mais le fruit de la chair, il est pourri. Donc, ces paroles ne sont pas des paroles de jugement. C'est des paroles de dire, là, tu veux vivre là. Non. il y a mieux. Mais ça demande quand même de mourir aux habitudes de vivre là. Pour apprendre à aimer comme il nous aime. Vous êtes d'accord avec moi, ça va? J'imagine que j'ai déjà assez, mais j'avais envie de parler encore de deux points du monde du travail. Il y a la famille, il y a l'Église, qui est une famille, puisque vous l'appelez fraternelle. Il n'y a pas de fraternité quand il y a du jugement, pas possible. C'est comme dans la famille naturelle. Pas possible. Il n'y a pas de fraternité s'il n'y a pas la filialité, comme des enfants bien-aimés. Revêtez-vous d'amour, revêtez-vous d'humilité, arrêtez de vous juger les uns les autres. Il n'y a pas de fraternité sans filialité, il n'y a pas, c'est pas possible. Si on ne se place pas à ce niveau, ça n'existe pas. Alors, j'aimerais parler du monde professionnel. Deux. Le monde professionnel, nous sommes appelés à apprendre à aimer à ce niveau-là. Et ce que j'ai remarqué, ou en tout cas une parole que j'avais envie de vous dire, c'est Jésus dit, défiez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être remarqué par eux. Matthieu 6, 1. Défiez-vous. Faites attention. Soyez méfiants par rapport à cette étude de pratiquer votre justice devant les hommes pour être remarqué par eux. C'est tellement fort. J'ai fait un bon travail. Je suis très honnête, très intègre. Pour être remarqué. Alors j'aimerais vous proposer une lecture un peu différente que celle-là, qui est dans Éphésiens 6, 8. Vous savez que ce que chacun aura fait de bien, il le retrouvera auprès du Seigneur. Alors écoutez-moi un peu, ce qu'il aura fait de bien. J'ai appris avec Jésus que aimer comme il aime dans le monde du travail, c'est dire comment je peux contribuer au bien, là, dans l'entreprise, pour mes collègues, pour le global. Comment je peux contribuer au bien? Il y a une ligne très fine entre je veux faire un bon travail pour être un bon chrétien et être remarqué, et puis que je puisse me dire à moi-même ça bien fait, et entre contribuer au bien. Il y a une ligne très fine. Je ne suis pas en train de vous dire de faire un mauvais travail, mais être remarqué n'est pas l'objectif du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Contribuer au bien, c'est l'objectif, c'est ça, aimer à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, quand tu contribues à l'objectif, peut-être tu vas perdre du temps à parler aux collègues. Ton propre projet sera un peu moins bien ficelé. Et peut-être tu ne seras pas remarqué dans ton aide aux collègues. C'est une autre mentalité. Est-ce que cela contribue au bien de l'équipe, de l'entreprise, de l'Église? Vous voyez, parce que là, quand on est dans l'être remarqué, on est encore dans l'égocentrisme. C'est moi qui suis important, c'est mon travail, c'est ça, 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 c'est bien, mieux, bien, plus bien. Des fois, le bien le plus grand passe par « t'es un peu moins bien préparé » et personne n'a vu en quoi ça a contribué au bien plus grand. Il me semble que ça, c'est quelque chose qu'en Suisse, nous avons besoin d'entendre. Très franchement. Et puis, le dernier point, dans le monde du travail, oui, contribuer au bien, mais ne pas nourrir les idoles. Aimer comme Jésus a aimé, c'est contribuer au bien dans toutes les situations, dans l'Esprit Saint, avec les impulsions, la conduite, la marche de l'Esprit, le respect et l'honneur aux personnes, mais ne pas nourrir les idoles. Dans le monde professionnel. Ça, c'est difficile. Le verset qui va avec ça, c'est Luc 10, 19, 20. Je vous donne autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Ah, mais on peut perdre son travail, peut-être, mais rien ne pourra vous nuire. On ne peut pas vous détruire quand vous marchez avec Dieu. Mais il y a là un enjeu extrêmement important. Nous aimons les gens, nous contribuons au bien d'une entreprise et des personnes qui y travaillent, mais nous ne servons pas les idoles. Nous marchons sur la puissance des idoles. Et Jésus ajoute, mais réjouissez-vous surtout de ce que votre nom est écrit dans le ciel, c'est-à-dire qu'on est un enfant du Père. Mon nom est écrit là-bas. Ça, c'est tellement capital. Dans le monde du travail, tu as le droit d'être un enfant du Père, libre, joyeux. Ton identité ne dépend pas du boulot, elle est dans le ciel, tu es un enfant du Père. Ça vous paraît peut-être idiot, mais là aussi, des témoignages, j'en ai des tonnes, même de parler à l'EPFL, d'être demandé des parterres non-croyants. Tu marches sur toute la puissance des idoles, des gens, des incrédulités, des peurs, des craintes, parce que ton nom est écrit là-haut, ton identité n'est pas là. Mais ce n'est pas si simple dans le monde professionnel aujourd'hui, qui demande tout de nous. Et en temps, en énergie, en dévotion, en famille, du couple, les deux doivent travailler à plein temps. Travailler à 80%, tu dois te battre. Enfin, je connais ces combats de beaucoup d'amis. Le mien, je l'ai aussi parcouru, mais c'est peut-être il y a longtemps. Mais je vous donne un petit témoignage, puis après j'arrête. Ça joue, hein? Oui, oui. Un petit. C'est la fin. Après, vous m'avez une fois, puis... Je pense que je suis enregistré, j'imagine, donc vous pouvez réécouter. Okay. Moi, j'étais enseignant de physique pendant 10 ans. Or, donc j'ai fait l'école polytechnique en physique. Ensuite, on m'a ouvert une classe de thèse à Genève pour faire la physique fondamentale en physique théorique. Et puis, j'ai vu que ce n'était pas mon chemin. Dieu m'appelait autrement. Donc, j'ai dit à ces messieurs, je vous aime beaucoup, mais c'est pas que je suis contre la physique, mais ce n'est pas mon chemin. Après, je suis devenu enseignant de maths et de physique au Cessnov, au gymnase. J'ai été pendant 10 ans tout en faisant des études de théologie en cours de route. Bon. Quand je suis arrivé en tant que physicien qui avait cherché la vérité dans la physique comme un fou, j'ai réalisé que la physique avait été mon idole. J'ai pas fait de la physique seulement pour faire de la physique. J'ai donné ma vie à la physique. Mes études, c'était une passion. Je cherchais Dieu, je cherchais le sens de la vie, c'était dans la physique. Alors j'avais ma trinité. Le Père, c'était la physique. Le Fils, le Messie, c'était évidemment Einstein. Ben voilà. C'était mon idole, je le disais. Ah, je veux être comme Einstein. Je veux ressembler à Einstein, je veux être à l'image d'Einstein. Avec de l'orgueil, évidemment. Ça va avec l'idolâtrie. Et puis j'avais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le langage des mathématiques. Si j'avais les mathématiques, j'avais les clés de l'univers. Ah ben, il y a encore ça, hein. Il y a des gens qui pensent que s'ils ont la programmation et les bits, et qu'ils ont le truc quantique, ils peuvent reprogrammer l'ensemble de l'humanité. Non, c'est... Donc je me disais en enseignant, comment, oh mon Dieu, je vais enseigner la physique sans enseigner ma trinité idolâtrique. Et pour moi, c'était vraiment une prière et une recherche. Et pourtant, j'avais que 22 ans, mais je voulais... Je n'ai pas arrêté d'aimer la physique, je n'ai pas arrêté d'aimer Einstein, je n'ai pas arrêté d'aimer les mathématiques, mais je ne voulais pas servir une idole. Et donc Dieu, comme dans les autres cas, il m'a dit, Paul, est-ce que tu aimes tes élèves? Première chose qu'il m'a dit, je dis, ok, je vais apprendre à aimer mes élèves, ils sont qu'à les servir. Ils ne sont pas là pour moi, moi je suis là pour eux. J'ai une très bonne attitude de départ. Tous les élèves, ils n'ont pas toujours conscience que les profs sont là pour eux, mais ils pensent qu'ils sont là pour les profs. Mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, le Seigneur m'a dit, tu enseignes la physique comme un émerveillement. Comme les lois de la nature, les gens du 17e, Galilée, Kepler et tous les autres, c'était des croyants et découvraient les lois de la nature. Enseigne-le par l'histoire de la découverte. Et les idoles tombent. Et donc, j'ai inventé, j'ai inventé une manière d'enseigner la physique. Selon l'histoire. Ne servons pas des idoles, ne nourrissons pas des idoles. Alors vous me direz, oui, mais comment je peux faire? Je ne sais pas. Peut-être dans l'Église, vous devriez avoir des ateliers de travail dans les domaines pour dire comment je peux contribuer au bien dans mon entreprise sans servir les idoles de l'économie, de la technologie. Comment je peux aimer dans la justice là-haut, avec l'Esprit de Dieu. Ça demande la créativité, de la recherche, de la prière. On peut pas faire ça à votre place. Je termine là. J'aimerais vous bénir dans une courte prière. Les deux choses qui me semblaient que c'était très, très personnel, enfin, tout était personnel, j'ai écouté pour vous, mais j'aimerais vous... Je sais pas, j'aurais aimé vous inviter à vous lever pour goûter à l'arbre de vie et non pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. pas au jugement, à comparaison, à dire « Ok, je veux mener ce combat. Je veux apprendre à bénir et à me nourrir de la vie qui bénit et non pas de l'arbre de la comparaison, jugement. » Vous serez d'accord ? Alors, tous ceux qui le veulent, on se lève et puis on demande à Jésus de nous désapprendre le jugement et la comparaison et de nous apprendre à aimer, à recevoir son amour pour nous, à nous voir comme il nous voit. Et je veux déclarer que Jésus te voit non pas dans la condamnation, mais dans la parfaite approbation de son amour à la croix pour toi. Il t'a arraché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il a été crucifié à cet arbre-là, pour que tu sois libéré de cette atmosphère avec laquelle tu as grandi, avec laquelle tu penses que tu fais le bien, en mesurant ton propre bien, ta propre marche, tout le temps, des fois même avec une introspection qui peut tourner à la maladie. Je déclare que Jésus a été crucifié pour te libérer et qu'il est venu comme arbre de vie dans la résurrection pour t'apprendre un chemin différent. Tu n'es pas fautif si tu arrêtes de juger et de comparer. Tu n'es pas en danger de perdre ta foi, de perdre ton intégrité. Tu n'es pas en danger quand tu te goûtes à l'arbre de la vie et de l'amour. Tu n'as pas à avoir peur parce que la vérité, c'est lui qui t'aime et qui est venu crucifié pour toi, pour que tu reçoives dans tes pensées des pensées de bénédiction et des paroles qui construisent, qui amènent la vie et la grâce chez les autres. J'aimerais libérer sur vos propres vies des paroles de vie, que le ciel vous en goûtiez, des paroles pour vous. Ça commence par l'écoute, mes bien-aimés, que vous entendiez du ciel. Vous êtes mes bien-aimés, vous êtes mes enfants. Votre identité est écrite dans le ciel. C'est déjà fait. Vous n'avez pas besoin de fabriquer des trucs, c'est fait. Apprenez à goûter sur la terre ce qui est fait dans le ciel. Apprenez à marcher sur la terre comme des enfants bien-aimés. Arrêtez de croire que dans le ciel, il y a un casier judiciaire qui s'ajoute et vous condamne et vous juge et vous compare. C'est terminé, il a été crucifié. Ça a été effacé. La relation avec le ciel n'est plus de cet ordre. Et donc on peut mettre son énergie, et je veux vraiment déclarer sur vous, Église de Nyon, vous pouvez mettre votre énergie et dans la confiance, dans les ressources de Dieu pour que vous puissiez bénir, dans les ressources de l'Esprit-Saint, dans les ressources de sa présence, de sa voix, de sa parole. Vous puissiez être des agents de bénédiction, des acteurs de bénédiction, des acteurs d'un amour au niveau de lui, où lui il aime, et avec lui, pas tout seul. Je déclare que vous êtes bénis, Église de Nyon, pour bénir les 122 nations qui sont là, qu'il y a des projets préparés d'avance. Vous pouvez les découvrir. Je déclare que vous êtes bénis, vous qui travaillez comme acteur dans le monde professionnel, pour découvrir des chemins où vous contribuez au bien. Vous ne cherchez pas à être remarqué, ni à avoir des positions, ni à ce qu'on dise, son travail est bien fait. Ce n'est pas ça que vous cherchez. Contribuez au bien sans servir les idoles. Je veux déclarer que si cette parole est libérée au mieux de vous, c'est qu'il y a des ressources pour que tu puisses recevoir comment je fais moi. Ce n'est pas le prédicateur qui te dira, c'est le Saint-Esprit qui va te dire et te montrer. J'aimerais vous bénir au nom de Jésus, communauté fraternelle, pour être une église filiale d'enfants du Père qui apprennent à s'aimer et à devenir frères et sœurs, pour être ensuite l'ami des pécheurs à l'extérieur. Au nom de Jésus, Amen.